Aujourd'hui, en ce 6 novembre, c'est l'anniversaire du décès du grand fondateur de Montréal, de Ville-Marie, Jérôme Leroyer de la Dauversière. Un homme absolument exceptionnel. Il a fondé, imaginez, lui qui était marié, qui avait 5 enfants, il a fondé les hospitalières de Saint-Joseph qui sont à l'Hôtel-Dieu depuis le tout début de Ville-Marie de Montréal, fondée en 1642. Je compte aussi vous dire quelques mots à la fin de l'émission, j'espère, de l'hôpital Saint-Charles-Borromée, c'est-à-dire du centre hospitalier où il y a une diaconie extraordinaire, où j'ai amené mon petit-fils Pascal durant 3 semaines. Il a été turiféraire là-bas, c'était merveilleux. C'est une expérience extraordinaire pour un enfant de 10 ans. Qui se mettent à soigner, à aider comme ça les malades, sans aucun problème. Ils prennent ça pour acquis. Ils sont contents de développer des amitiés avec des gens qui sont en fauteuil roulant. Et ils les prennent tels quels. C'est beaucoup plus facile à cet âge-là qu'à 16, 17 ou 18 ans peut-être. Et hier, bien, je l'ai amené à Saint-Benoît-du-Lac. Et nous avons assisté à la messe à 11h. C'était superbe. Quand ça s'est terminé, mon petit-fils, qui va avoir 11 ans le 13 novembre, m'a regardé avec des grands yeux pour en me disant, c'est pas déjà fini, c'était tellement beau. Et ensuite, nous avons mangé avec les moines au réfectoire. Oh, on dirait que ça a développé son appétit. Il était content, il a rencontré le père abbé, quantité de moines. Il avait l'air heureux comme un poisson dans l'eau. Et ça va développer, j'espère, chez lui, le désir de faire partie de cette diaconie, c'est-à-dire de ce groupe de laïcs qui sont heureux de collaborer autour du père Valère Dubé, aumônier du centre hospitalier Saint-Charles-Borromée, qui est situé sur le boulevard René-Lévesque, dans ce qu'on appelait autrefois l'hôpital du Cardinal, un peu à l'est, ou une rue à l'est de Saint-Laurent, au coin, en somme, de Saint-Dominique, quoi. Un grand bâtiment de briques rouges foncées. Et on va au 3e étage où est la chapelle et on assiste le dimanche matin à 10h15. Il y a la messe, c'est bon d'arriver 20 minutes avant pour aider à pousser des fauteuils, à aider un peu. Et c'est merveilleux cette messe, admirable, dans une chapelle remplie de poissons, d'oiseaux et d'arbres. C'est exceptionnel dans le monde entier, je crois. Et c'est dû à l'abbé Valère Dubé, qu'on appelle le père Valère, aumônier de ce centre hospitalier où il y a beaucoup, beaucoup de générosité. Donc, je tiens à vous parler aujourd'hui du fondateur, justement, de cette ville où ont fleuri toutes ces choses admirables, dont celle dont je viens de vous parler, et cette ville qui a donné au monde entier plus de 1000 missionnaires, hein, qui a donné tant de vocations et de saints laïcs, même, et de parents merveilleux. Vous savez, Montréal n'est pas que la ville de la drogue, la ville de la décadence et la ville de l'absurdité. C'est aussi la ville, au cours de l'histoire et de ces 3 siècles et demi, une ville absolument remplie d'héroïsme. Et le fondateur est un héros. Jérôme Leroyer de la Dauversière est né à La Flèche, petite ville d'Anjou. Jérôme Leroyer est le fils d'une demoiselle du nom de René Houdin, épouse de Jérôme Leroyer de la Dauversière, le même nom, percepteur d'impôts. Un second fils, nommé René comme sa mère, naît à Tours en 1598. Et une fille, Marguerite, qui est née à La Flèche quand ils sont de retour à La Flèche, donc en 1603, parce qu'ils sont allés vivre quelque temps à Tours, qui n'est pas si près que ça de La Flèche. Hein? La Flèche est un peu plus près du Mans. De toute façon, à 11 ans, notre jeune Jérôme, le royer de la Dauversière, s'inscrit chez les Jésuites à La Flèche. Il est le condisciple, imaginez, de René Descartes. Oui, il a connu René Descartes. Il a sans doute fait la connaissance aussi du père Edmond Massé, jésuite, qui a séjourné, lui, en Acadie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse aujourd'hui, etc., l'île du Prince-Édouard. Ces journées-là, de 1611 à 1613, vous savez, il y a des gens qui s'imaginent que les Français du Québec sont arrivés à la fin du siècle dernier. Je me suis déjà fait dire ça par des gens qui habitent ici, parmi nous, depuis déjà un bon bout de temps, mais qui connaissent pas notre histoire, n'ont jamais eu l'occasion de se la faire raconter ou d'obtenir ne serait-ce qu'un petit texte pour raconter un peu l'histoire du Québec, l'histoire des Français d'Amérique, car nous couvrons évidemment non seulement le Québec où nous sommes surtout centralisés, mais nous existons aussi ailleurs et beaucoup aux États-Unis. Il y a des millions de descendants de notre peuple aux États-Unis, car nous sommes un peuple, une nation. Et alors nous étions déjà là, Edmond Massé, jésuite, de 1611 à 1513 en Acadie, puis il a dû connaître Jérôme le Royer de la Dauversière, le futur missionnaire aussi au Nouveau Monde, entre autres. Paul le Jeune, fameux jésuite, Barthélemy Bimont, Charles l'Allemand, car ils viennent tous de la même région. Vous savez, je m'inspire pour vous raconter tout ça d'un beau texte de sœur Berthilde Beaulieu, une religieuse hospitalière de Saint-Joseph, cette congrégation fondée par Jérôme le Royer de la Dauversière, ce laïc, père de famille de 5 enfants. Quand Jérôme le Royer de la Dauversière termine ses études à 20 ans, en 1617, chez les jésuites, il est prêt à seconder son père dans les emplois administratifs. Or, l'année suivante, M. le Royer de la Dauversière, le père, meurt. Alors, mais ce n'est qu'à l'âge de 25 ans que notre Jérôme le Royer, qui est le fils aîné, va accéder officiellement au poste de percepteur d'impôts. En 1621, juste un an avant de devenir percepteur d'impôts lui aussi, il va surtout travailler dans les finances. Vous allez voir ça, c'est assez curieux cette vie, c'est très spécial. En 1621, donc, Jérôme le Royer célèbre son mariage. Il épouse Jeanne de Beaugé, une jeune fille du Mans, qui n'est pas tellement loin, comme je vous ai dit, de la Flèche, mais ça se fait pas à pied peut-être, mais en tous les cas. Et elle aidera toujours son mari dans ses grands projets. Ils vont donner une bonne éducation à leurs 5 enfants. L'aîné va d'ailleurs porter lui aussi le nom de Jérôme. Ça fait un troisième Jérôme, le Royer de la Dauversière. Cet aîné va acheter la charge de lieutenant général au présidial, c'est-à-dire au tribunal, si vous préférez, de la Flèche. En 1654, il épouse Louise Brochard des Bourdaines, qui va lui donner 3 enfants. Les 2 autres fils de notre fondateur de Ville-Marie sont Ignace et Joseph, qui vont se succéder comme curés au même endroit, où ils vont laisser d'ailleurs une réputation de bons et saints prêtres. Jeanne, la fille aînée, va entrer dans la communauté des filles de Saint-Joseph, c'est-à-dire des hospitalières de Saint-Joseph fondées par son père. Et Marie, elle, va se faire visitandine, c'est-à-dire une religieuse à la visitation de la Flèche, en 1650, la famille de Jérôme le Royer et de Jeanne de Beaugé habite, on le sait par des textes de l'époque, une grande maison en pierre à 3 étages, dans un grand jardin. Et cette maison, qui abritait d'ailleurs un oratoire, oui, un oratoire, et le bureau évidemment du percepteur d'impôts, bien, elle existe toujours, rue de la Dauversière à la Flèche. Alors, si vous allez un jour à la Flèche, vous pourrez visiter la maison du fondateur véritable de Montréal. Car c'est lui qui a envoyé Maisonneuve, hein, qu'on considère toujours comme le fondateur. Mais c'est vraiment, je vous assure, Jérôme le Royer de la Dauversière, ce saint homme qui a fondé. Vous verrez tout à l'heure. Après son mariage, donc, le fils aîné, Jérôme, continue d'habiter la maison familiale. Il exerce là les fonctions de lieutenant général, comme je l'ai dit, avec juridiction, sur les causes civiles et criminelles. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le présidial. Donc, bon père de famille, notre Jérôme de la Dauversière s'occupe, lui, de ses enfants. Il accepte à l'occasion de servir même de tuteur pour des orphelins pauvres. Vous voyez que c'était vraiment un saint, je crois. Lorsque son cousin, d'ailleurs Jacques le Royer de la Roche, meurt en 1648, eh bien notre fondateur, notre Jérôme, le Royer de la Dauversière, devient curateur de sa fille, qui s'appelle Renée, comme sa femme, et qui habitera chez lui jusqu'à son entrée, elle aussi, au monastère de la Visitation de la Flèche. Il faut dire que M. de la Dauversière et sa femme sont très accueillants pour les visiteurs. Imaginez que celui qui a grandement financé avec Madame de Bullion la fondation de Montréal, à coup de, on dirait aujourd'hui de millions, c'est le baron de Fancamp. Ben, le baron de Fancamp a habité chez eux avant de devenir prêtre de 1633 à 1648 pendant 15 ans. Et durant l'hiver de 1652, même il y a eu un drame, toute la communauté de la Visitation, de toutes les visitandines sont venues loger chez notre fondateur, oui. La supérieure, d'ailleurs, notera par la suite que cette maison de Jérôme Leroyer de la Dauversière était un refuge pour les pauvres et les affligés. La vie familiale dans cette grande maison, c'est évidemment profondément chrétienne. Je vous ai dit qu'il y avait un oratoire. Une grande dévotion à la Vierge. Une dévotion à Saint-Joseph, comme d'ailleurs l'avait la grande sainte Thérèse d'Avila. Avec l'appui de son frère René et des gens de la Flèche, notre Jérôme Leroyer de la Dauversière fonde en 1634 une confrérie. C'était très important à l'époque, ça, les confréries, de la Sainte Famille. Joseph, Marie et Jésus. Il en rédige les statuts. Monsieur de la Dauversière participe à des organismes de caractère religieux. La plupart du temps, c'est à titre de trésorier. Oui, c'est très fort en finance. Et puis, responsable en somme des finances, quoi. Il accepte de rendre service, toujours. Il est procureur, d'ailleurs, de la confrérie du Saint-Sacrement, qui était très importante. Il faut lire des choses sur la confrérie du Saint-Sacrement. On n'a pas idée comme ça rassemblait beaucoup de gens, de toutes sortes, pour... non seulement pour vénérer Saint-Sacrement, mais pour se dévouer. C'était pas des gens qui se contentaient de petites prières, pas du tout. Et M. de la Dauversière, qui est membre du tiers-ordre franciscain, ben il exerce la fonction de syndic, c'est-à-dire de procureur, si vous voulez, des récollets, c'est-à-dire des franciscains de la Flèche, hein. C'est lui qui s'occupait justement des finances que les franciscains n'osaient pas toucher par esprit de pauvreté. Jérôme Leroyer de la Dauversière sera aussi administrateur de l'Hôtel Dieu de la Flèche. Puis il va être fondateur, puis procureur de cette communauté des filles de Saint-Joseph qu'il va fonder, et aussi de cette fameuse Société de Notre-Dame de Montréal, qu'il va diriger, puis qu'il va fonder Montréal. Mais d'après un écrit de son petit-fils, qui s'appelle lui aussi Jérôme, Joseph Jérôme, le royer de la Dauversière, bien, l'inspiration de fonder une communauté pour soigner les pauvres de la Flèche lui est venue, savez-vous comment? Bien, c'est pendant sa prière, le 2 février 1630, 14 ans avant la fondation de Montréal, en la fête de la purification de la Sainte Vierge. L'idée lui vient pendant sa prière. C'est comme ça que Montréal se fonde, hein? Le 2 février 1630, dans son cœur. Avant d'agir, bien, Jérôme Leroyer demande conseil à son confesseur, le père Étienne, qui est supérieur justement des récollets, des franciscains, qui l'envoie consulter un jésuite au collège. Et le père François Chauveau se montre évidemment réticent devant ce qui lui semble une chimère. Un rêve absurde, quoi. C'est un fait inusité, encore de nos jours, qu'un laïc, père de famille, soit appelé à fonder une communauté de filles hospitalières, parce qu'il reçoit dans son cœur comme ça des visions. Hein. Celle-ci, c'est le 2 février de 1630, pardon, c'est pour la fondation de la communauté. Alors, Jérôme accepte, à la demande du jésuite, d'attendre. Puis c'est de la même façon qu'il va fonder Montréal. Les bâtiments de l'hôtel, de la Maison Dieu, là, ils sont délabrés. L'ancienne aumônerie de la Flèche sert d'abri aux pauvres. Jérôme fait des plans. C'est un organisateur. Il veut construire un hôpital convenable, avec une chapelle. À l'époque, là, la responsabilité de tous ces gens qui sont bien démunis, bien, ça relève de l'entreprise privée, quoi. Les autorités du diocèse, les autorités civiles aussi, appuient simplement les initiatives des intéressés. Ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, hein. Et en quelques années, La ville de La Flèche se trouve dotée d'un nouvel hôtel-dieu avec de bonnes salles pour le soin des malades, une chapelle neuve dédiée à Saint-Joseph. Et pour absorber le coût des travaux, ben, M. de la Dauversière reçoit des dons. Il fait des emprunts. Il y verse même une partie de son argent. Il peut surtout compter sur l'aide financière de son bon ami Pierre Chevrier, baron de Fancamp, dont je vous ai parlé, qui habitait chez lui 15 ans. C'est un bienfaiteur extraordinaire qui est venu à La Flèche poursuivre des études de théologie, car il veut devenir prêtre. Et le baron de Fancamp va lui être d'une fidélité totale en tout, jusqu'au bout. C'est, on pourrait dire, un des fondateurs de Montréal que ce baron de Fancamp, ce prêtre. Entre-temps, bien, Jérôme Leroyer a reçu de Dieu l'ordre de fonder, donc, la colonie de Montréal et un hôpital sur l'île de Montréal, qui sera desservi par ses propres filles de Saint-Joseph, ses hospitalières. Lorsque son directeur, le père Chauveau, approuve enfin les projets de son dirigé, malgré que ça a l'air absolument invraisemblable comme projet, bien, il lui suggère de se trouver des collaborateurs. Sur demande des deux frères, René et Jérôme Leroyer, qui sont administrateurs de l'Hôtel-Dieu, il y a une entente qui est signé avec les autorités de la ville de La Flèche, qui approuve le petit groupe des hospitalières qui œuvrent gratuitement à l'hôpital. Elles vont continuer de vivre en communauté à l'Hôtel-Dieu sans être à charge. Ça ne coûtera rien. Cependant, la communauté se réserve le droit d'admettre dans leur groupe, évidemment, ben, les candidates qu'elle juge aptes. C'est elles qui vont régler ça. Elles ne veulent pas, d'ailleurs, de vocation forcée comme ça existait à l'époque, hein? Car elles croient, elles, en la liberté des enfants de Dieu. C'est une des caractéristiques que Jérôme Leroyer souhaite voir s'épanouir chez les filles de Saint-Joseph, ses hospitalières. Et la principale fonction des sœurs, c'est le soin des malades. Puis le gouvernement interne, évidemment, de l'Hôtel-Dieu, en collaboration, puis sous la direction des deux administrateurs laïcs sont désignés par la ville. Le 3 juin 1640, deux ans avant la fondation de Montréal, M. de la Dauversière, ben, la fondation de Montréal par Maisonneuve, mais M. de la Dauversière offre un registre à la communauté. Il y inscrit lui-même les noms des premières filles de Saint-Joseph. Alors, le 27 octobre 1640, le nom d'Anne de l'Épicier, ancienne dame de... C'est drôle qu'elle s'appelle de l'Épicier. C'était l'ancienne dame d'honneur de la princesse de Condé. Elle s'y inscrit. Jeanne de la Dauversière, la fille de Jérôme Leroyer de la Dauversière, qui n'a que 13 ans, est l'une des 7 jeunes filles à entrer à l'Hôtel-Dieu en 1641. Vous voyez encore une fois une jeune fille de 13 ou 14 ou 15 ans, ou des jeunes gens aussi, qui entrent en religion et qui font des religieux et des religieuses magnifiques. Elle va devenir supérieure très jeune, Jeanne de la Dauversière, car elle reçoit une formation solide. Et dès les débuts, bien, M. de la Dauversière s'intéresse justement à la formation pratique, la formation spirituelle des filles de Saint-Joseph, qui sont admises comme soignantes, comme infirmières, quoi, à l'Hôtel-Dieu. C'est surtout un grand amour de Dieu et des pauvres qui guide Jérôme Leroyer. Et puisque Jérôme connaît personnellement Saint-Vincent de Paul, un certain rapprochement est possible avec les règles des filles de la charité qu'a écrites Saint-Vincent de Paul. Et le charisme, donc, des filles de Saint-Joseph, tel que défini par M. de la Dauversière, a subi à travers les siècles l'épreuve du temps. Son actualisation, sa mise en pratique aujourd'hui demeure toujours possible, même après 350 ans. À l'époque, la mission d'un Hôtel-Dieu, on peut se demander pourquoi Hôtel-Dieu, c'est très étroitement lié au bien spirituel du malade. Vous savez que les gens étaient couchés dans des alcôves. Il n'y avait que des espèces de tentures qui les séparaient les unes des autres, les malades. Et puis, on pouvait ouvrir ces tentures-là, et dans la salle où elles étaient, il y avait un autel, et on pouvait célébrer la messe devant elles, et de leur lit, ces malades-là pouvaient assister comme ça. C'était la même chose dans les hôtels-dieux où il y avait des hommes. Hein? Bien que, évidemment, le soin du corps n'était pas négligé, il y avait un médecin qui venait les visiter. Mais la santé de l'âme des malades constituait la préoccupation constante des filles de Saint-Joseph. C'est comme ça que ces sœurs hospitalières Saint-Joseph se sont tellement occupées de mon père, qui n'était pas tellement croyant, que quand il est entré malade à l'Hôtel Dieu de Montréal, à la fin des années 50, c'est une sœur qui l'a amené à Dieu. C'est une sœur qui l'a simplement taquiné en lui disant « Oh, les temps ont bien changé ». Peut-être que ça vous fatigue, le crucifix qui est là devant votre lit, sur le mur en haut, là. Et puis, il a souri. Il était surpris de voir une sœur. Les sœurs portaient ce beau costume à l'époque. C'était encore plus impressionnant. Et alors, mon père a dit, bien non, ça me fatigue pas. Et en disant ça, il s'est converti. Il a demandé un prêtre, s'est confessé, l'a communié, est mort très, très, très chrétiennement. Cette sœur était magnifique. Je l'ai bien connue. Elle était charmante. Extraordinaire. Les filles de Saint-Joseph, d'ailleurs, se sont engagées depuis 350 ans à donner leur service gratuitement et sans être à charge. Leur rente, à l'époque, était suffisante pour assurer leur subsistance. Les maisons de la communauté, les dons des bienfaiteurs, qui étaient fort généreux, pourvoient à tout. En échange, ben, les bienfaiteurs ont droit, évidemment, au titre de fondateur, puis aux prières de la communauté. Déjà à l'époque, on projette de fonder 3 hôpitaux. Ça reçoit l'approbation de l'évêque d'Angers. Et en 1652-1653, Jérôme Leroyer de la Dauversière est très occupé au recrutement de nombreux colons, là, parce que ça fait 10 ans que Montréal est fondé sous son égide. Il réunit de nombreux colons qui s'embarquent à l'été de 1653 pour Montréal. Plusieurs sœurs aimeraient faire partie du petit groupe des filles de Saint-Joseph qui vont partir, éventuellement s'occuper de l'hôtel Dieu Saint-Joseph à Ville-Marie, notre hôtel Dieu de Montréal. Et avant la fin du 20e siècle, d'ailleurs, quand on y pense, les religieuses hospitalières de Saint-Joseph auront fondé, nos sœurs, là, plus de 70 maisons. En France, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, au Pérou, en République dominicaine, au Bénin en Afrique et au Mexique. Et partout, nos hospitalières de Saint-Joseph ont témoigné de l'amour de Dieu et des démunis, légués par le fondateur, Monsieur de la Dauversière. Nous allons parler des origines de Montréal, sous la juridiction toujours de Jérôme Leroyer de la Dauversière, hein, dès 1631, 11 ans avant la fondation proprement dite par Maisonneuve, Jérôme de la Dauversière songe à une fondation dans l'île de Montréal. La grande mission que Dieu lui confie comprend l'établissement, donc, d'une colonie, dans le but d'évangéliser les Amérindiens. Oui, nous sommes ici pour évangéliser les Amérindiens au début. Et la fondation aussi d'un hôpital. Il songe à ça, qui serait desservi par la communauté de ses filles hospitalières. Il en parle au père Chauveau, qui lui conseille d'abord, évidemment, de ne plus penser à cette espèce d'ordre de Dieu, qualifié par le père Chauveau lui-même, voici les mots, d'imprécis et sans vraisemblance. Alors, devant l'ampleur de ce projet, mais Jérôme Leroyer de la Dauversière hésite lui-même, hein, bien avant d'entreprendre la fondation de Ville-Marie de façon active, mais Jérôme a eu une série d'inspirations d'origine divine, lui montrant, chose extraordinaire, l'île de Montréal assez nettement pour qu'il puisse en décrire la topographie avec précision. En 1634, le père Chauveau en conclut finalement que le projet de Montréal est voulu par Dieu. Il encourage alors Jérôme Leroyer à agir. « N'en doutez pas, monsieur. Employez-vous-y tout bon, lui dit-il. » C'est ses paroles. Et quand M. de la Dauversière se rend à Paris en 1635 pour chercher de l'aide, comme le lui a conseillé le père Chauveau, il s'est déjà acquis la confiance puis l'amitié de son premier associé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le baron de Fancamp. À Meudon, il fait la connaissance du fameux abbé Jean-Jacques Ollier, le fondateur des Sulpiciens. Et il lui expose ses projets d'évangélisation en Nouvelle-France. Et alors, M. Ollier, qui partage le zèle missionnaire de Jérôme Leroyer, est sûr que son nouvel ami est inspiré de Dieu. Il lui accorde sa confiance. Il lui accorde même un don substantiel. Et la société modèle que M. de la Dauversière et ses associés envisagent pour Ville-Marie comprendrait, en plus de l'administration appropriée, évidemment, pour le gouvernement, puis la défense de la colonie, ça comprend des institutions destinées à l'éducation des enfants français et amérindiens. Quoi? Un séminaire, ou un collège, si vous voulez, pour les garçons, dirigé par des prêtres, puis une école aussi pour les filles confiées à des religieuses. Ils rêvent de ça. La Société de Montréal forme aussi le projet de construire un hôpital et une maison meublée pour les associés qui voudront y aller en personne servir Dieu. Et comme on dit à l'époque, les sauvages, je n'aime pas l'expression, mais il faut comprendre l'époque. Tel est le projet que M. de la Dauversière va tenter de réaliser avec l'aide des messieurs de Saint-Sulpice, les Sulpiciens, et des dames de la Société de Notre-Dame de Montréal. Les messieurs et les dames de la Société de Notre-Dame de Montréal deviennent un bon petit groupe très solide. Et M. de la Dauversière, ses collaborateurs, espèrent que des familles autochtones vont s'installer près de Ville-Marie pour y vivre en harmonie avec les Français et qu'ils deviennent un peu sédentaires et qu'ils cultivent la terre. Et là, au 17e siècle, on voit naître ce grand courant d'évangélisation qui anime toute la France à cause de la lecture là, des textes des Jésuites qui sont venus ici, les relations des Jésuites. Et la France est troublée par l'ignorance à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs. Troublée par les superstitions. Mais elle est troublée aussi, à l'époque, dans son catholicisme, par les religions réformées, les religions protestantes. Et l'ardeur missionnaire gagne donc l'élite chrétienne de la France. Les laïcs ne sont pas les moindres là-dedans. C'est dans ce contexte-là qu'il faut situer l'initiative de M. de la Dauversière et de ses associés. C'est là qu'on peut saisir le véritable sens de cette entreprise de la Fondation de Ville-Marie. L'originalité de toute cette entreprise, ça vient surtout du fait que ce soit surtout des laïcs, et que ce soit privé, sans but lucratif. C'est une fondation étonnante, des laïcs générés. Et le 7 août 1640, mais la donation d'une grande partie de l'île de Montréal est signée devant notaire. En faveur de Pierre Chevrier, c'est un nom bien québécois, hein? Pierre Chevrier, écuyer, qui est le baron de Fancamp. C'est son vrai nom, Pierre Chevrier, le baron de Fancamp. Et en présence aussi de ce noble homme, comme dit le texte, Jérôme Leroyer, sieur de la Dauversière, à des conditions, dit le texte, fort honnêtes et favorables. Alors, étant donné les dangers auxquels va être exposée cette future colonie, bien, les pionniers auront besoin, évidemment, d'un chef militaire. Un chef militaire expérimenté, habile, capable de commander courageusement cette entreprise qui est extrêmement hasardeuse. Or, le chef idéal existe. Et voilà, c'est lui, le gentilhomme qui vient de Champagne, comme ma famille, Paul de Chamédé de Maisonneuve, militaire, tout jeune, âgé de 29 ans seulement. À l'époque, 29 ans, c'était plus vieux qu'aujourd'hui. En lisant les relations des Jésuites, il s'est senti attiré par le Canada. Il a exposé, Paul de Chamédé de Maisonneuve, il a exposé son ambition au père Charles Lallemand, qu'il a aussitôt recommandé à M. de la Dauversière, et très sûr que cet officier est un candidat intéressant, bien Jérôme Leroyer de la Dauversière se rend à l'hôtel où Paul de Chemédé loge. Et sans se faire connaître au cours du repas qu'ils prennent en commun, bien, il amène la conversation sur les missions canadiennes. Puis il regarde Maisonneuve, comment Paul de Chemédé de Maisonneuve va réagir. Et le soir même, eh bien, ce gentilhomme de Maisonneuve offre ses services aux fondateurs de Montréal. Consacrer sa vie à Dieu pour l'évangélisation des Amérindiens de la Nouvelle-France, uniquement pour l'honneur de servir Dieu et le roi, et fort satisfait des qualités morales et des convictions chrétiennes de son interlocuteur, bien, M. Leroyer de la Dauversière va lui expliquer les plans élaborés par les associés, là, les associés de Notre-Dame. Paul de Chemédé de Maisonneuve est célibataire, entièrement libre. Il accepte sur le champ de prendre le commandement du petit groupe de colons qui vont former la première recrue. Et M. de la Dauversière ne sera jamais déçu du choix qu'il a fait de Maisonneuve pour exécuter le projet de Montréal. Vous savez que l'une des premières recrues, c'est un M. Louis Prudhomme. C'est l'ancêtre de Robert Prudhomme qui collabore à Radio Ville-Marie, qui fait cette émission le jeudi à 17h, à 5h de l'après-midi, une émission culturelle. L'établissement, donc, d'un hôpital à Ville-Marie. Mais ça fait partie du dessin conçu par M. de la Dauversière. Ce sera le cinquième Hôtel-Dieu que M. de la Dauversière contribuera à établir. C'est l'œuvre de la riche veuve de Claude de Bullion. Oui, on la rue de Bullion, ça vient de là, hein? Madame de Bullion, son mari était surintendant des finances de France, ministre d'État et ami du cardinal de Richelieu. Et Madame de Bullion et M. de la Dauversière se connaissent depuis 1639 au moins. Et la bienfaitrice, très très riche, va contribuer de façon fantastique au projet de Ville-Marie, de Montréal. Mais elle préfère, très simplement, garder l'anonymat. Et la mandataire de Madame de Bullion pour l'exécution de son projet d'hôpital, c'est qui? C'est Jeanne Mance. C'est de là que vient le nom de la rue Jeanne Mance, parc Jeanne Mance. Fille d'un magistrat de Langres, elle est âgée de 34 ans. Elle a entendu son cousin, le père Dolbeau, c'est bien de là que vit la ville de Dolbeau, parler des missions canadiennes, et elle songe à aller en Nouvelle-France. Jeanne se rend à Paris en 1641. Alors là, des grandes dames qui la reçoivent admirent son courage. Ils l'appuient dans ses projets. Madame de Bullion, déjà informée, elle, des préparatifs de l'expédition de Montréal, la fait venir. Elle lui parle de son projet d'hôpital. Elle lui remet des sommes considérables. Alors, de Paris, bien, Jeanne Mance écrit à M. de la Dauversière, qui lui donne rendez-vous où? À La Rochelle. La Rochelle, nous avons ici un Gilles de La Rochelle qui collabore aussi à Radio Ville-Marie, voyez-vous. On retrouve ses vieux noms, hein? Alors donc, La Rochelle, c'est le port d'embarquement pour partir pour le Canada, pour le fleuve Saint-Laurent, pour Québec, pour Montréal, qu'on va fonder. Les ambitions de Madame de Bullion, qui est assez riche, pour rivaliser de générosité avec la fameuse duchesse d'Aiguillon, nièce de Richelieu, qui a fourni les fonds d'ailleurs pour l'Hôtel-Dieu de Québec, mais ça coïncide avec les desseins de M. de la Dauversière. Alors, Jérôme Leroyer de la Dauversière, puis le baron de Fancamp, ont aussi commencé à enrôler comme colons des ouvriers, des gens de divers métiers, des hommes jeunes pour la plupart, tous catholiques et célibataires, qui acceptent volontiers de traverser l'océan. À l'été de 1641, ils vont traverser en 1641, au printemps, donc de cette année-là, les routes de M. de Maisonneuve et de M. de la Dauversière, de Jeanne Mance et de la plupart des engagés de Ville-Montréal, de Ville-Marie, ça converge vers où? Vers La Rochelle. Alors, en juin 1641, le premier contingent de colons destiné à Ville-Marie quitte le port de La Rochelle à bord de deux navires. Jeanne Mance accompagne un groupe de 12 hommes. Maisonneuve, les 27 autres. C'est pas nombreux, hein? Des petits bateaux. Quelques femmes se sont jointes aux 10 colons partis de Dieppe pour la longue traversée. Ils vont se rendre à Québec à la fin de l'été. La saison d'automne est trop avancée, évidemment. Là, les pionniers ne peuvent pas se rendre à Montréal. Ça n'a pas de sens, passer l'hiver à Montréal. Ils passent l'hiver donc à Québec, à l'abri. Puis il y a toujours la menace iroquoise qui pèse sur la colonie, particulièrement sur l'expédition de Montréal, hein? Et certains gens de Québec qualifient ça d'une entreprise absolument folle. Ils disent qu'ils vont mourir aux mains des Iroquois. Ça incite le gouverneur de la Nouvelle-France, M. de Montmagny, à offrir l'île d'Orléans à Maisonneuve, plutôt que l'île de Montréal. Mais le commandant de l'expédition, qui est évidemment mandaté par les associés, qu'on appelle les associés de Montréal, mais il est bien informé de sa mission et de ses buts. Alors, il prononce le désormais la réplique qui serait qu'on apprenait ça quand on était jeune. Monsieur, ayant été déterminé par la compagnie qui m'envoie que j'irai au Montréal, il est de mon honneur et vous trouverez bon que j'y monte pour commencer une colonie, quand même si tous les arbres de cette île devraient se changer en autant d'Iroquois. Ils avaient de l'allure, ces gens-là, à l'époque. Alors, le 15 octobre 1641, bien, Montmagny, Maisonneuve, quelques hommes remontent le fleuve jusqu'à Montréal. Ils vont juste visiter. Ils vont voir la grande île qui est inhabitée, couverte de belles forêts. Ils savent que l'île a jadis été habitée par des Iroquois. Parce que Jacques Cartier l'a écrit, il avait été accueilli en 1535 dans une grande bourgade d'Hochelaga. C'est de là que vient le mot Hochelaga. D'ailleurs, Aristide Beaugrand-Champagne, qui n'a aucune parenté avec moi, qui était un historien remarquable de Montréal, dit que cette bourgade était sur le flanc nord du Mont-Royal. Il paraît que c'est prouvé. Donc, à son passage, d'ailleurs, en 1611, Champlain a appelé Place Royale une clairière déserte mesurant une soixantaine d'arpents qu'ils ont devant eux. C'est la Place Royale d'aujourd'hui. Le groupe d'hommes venus en éclaireur, eux, en 1641, choisit cet emplacement pour la future habitation. Il s'agit de la pointe de terre entre le fleuve Saint-Laurent et la petite rivière Saint-Pierre. Ah oui, c'est ça, c'est la pointe à Calière, ça. Et c'est là que les Montréalistes, comme on les appelait, viendront habiter au printemps suivant, 1642, le 17 mai, en réalisant ainsi la mission que Dieu a confiée à M. de la Dauversière une dizaine d'années auparavant. Le 27 février 1642, à Notre-Dame de Paris, dans cette grande église qu'on peut toujours visiter aujourd'hui, mais 35 membres, 9 prêtres, 8 dames, 18 messieurs de la Société de Notre-Dame de Montréal, dont la moitié sont aussi des membres de la Compagnie du Saint-Sacrement, bien, ils assistent à la messe, que célèbre M. Ollier. Et ensuite, à l'endroit même où Jésus-Marie et Joseph se sont manifestés à Jérôme le Royer en 1635, eh bien, les messieurs et dames de Montréal consacrent leur île à la Sainte Famille. Ils la mettent sous la protection particulière de Notre-Dame et le nom de Ville-Marie est retenu comme désignation officielle de l'établissement jusqu'en 1705. Les cérémonies religieuses terminées à la cathédrale Notre-Dame de Paris, bien, les associés procèdent aux affaires de la société. Ils font des contributions généreuses pour le recrutement de colons. L'achat de provisions pour Montréal s'élève en quelques heures à 40 000 livres. Monsieur de Lauzon est nommé directeur. Le baron Gaston de Ranty, on voit ça ce nom-là, de Ranty, Lauzon, on voit ça ici au Québec, était nommé secrétaire. Monsieur de la Dauversière est procureur. Toujours l'argent, lui, dont il s'occupe, les finances. Alors, le promoteur de Montréal, M. de la Dauversière, sait, évidemment, que cette fonction exige davantage de lui qu'une simple signature sur des actes rédigés devant notaire. Le reste de sa vie, M. de la Dauversière va s'occuper sans répit du recrutement, des embarquements et de toutes les affaires de la Société Notre-Dame qui fonde Montréal. À titre de procureur permanent, d'ailleurs, Jérôme le Royer de la Dauversière va faire entasser dans l'entrepôt de Montréal, à la Flèche, des denrées, des provisions, des outils, bref, tout ce qui est essentiel dans un pays où on trouve rien que la matière première. Le fondateur donc de Montréal, qui est Jérôme le Royer de la Dauversière, va effectuer de nombreux et épuisants voyages, la plupart du temps à cheval, afin d'embaucher des colons, nos ancêtres, trouver des collaborateurs, et des bienfaiteurs pour défrayer les dépenses nécessaires à la survie et au progrès de cette habitation de Ville-Marie, comme on l'appelait au début. Il devra aussi emprunter des sommes importantes pour payer les armateurs, les marchands, avec qui la société fait affaire. Alors, au printemps de 1642, les colons de Ville-Marie quittent Québec. Et le 17 mai, une quarantaine d'hommes, 6 femmes et 4 enfants, dont 50 personnes, accostent enfin à Montréal. Monsieur de Montmagny met officiellement Maisonneuve en possession de l'île. Et pour ces chrétiens fervents, mais la prière d'action de grâce est spontanée. Quelle est la meilleure action de grâce si ce n'est la messe? L'Eucharistie, qui veut dire justement action de grâce. Alors le sermon que prononce le père Barthélemy Vimont au cours de la première messe en plein air s'inspire de quoi? Souvenez-vous de ça, du symbolisme du petit grain de moutarde, là, vous savez, la parabole de Jésus, qui jeté en terre par une poignée de colons va produire avec le temps un grand arbre, la ville de Montréal. Et en juillet 1642, une bande d'Algonquins sympathiques aux Français s'attarde dans l'île de Montréal. Le père Poncet baptise le fils du chef Achéast, enfant de 4 ans, le parrain Maisonneuve, la marraine Jeanne Mance. Le 15 août, ces visiteurs algonquins sont toujours à Montréal et célèbrent avec les pionniers la fête de l'Assomption. Il y a une bonne entente entre Français et Algonquins. On dit ça va bien aller. Et à la fin d'août, l'amiral Pierre Legardeur de Repentigny conduit à Montréal 12 nouveaux colons, enrôlés par M. de la Dauversière. Au cours de l'hiver suivant, la petite colonie apprendra à ses dépens que la place royale, ce n'était pas le meilleur endroit à choisir pour une habitation, parce que là, ils sont menacés à Noël d'inondation. Maisonneuve s'engage à porter une croix jusqu'à la montagne si la colonie est épargnée. Et ça, c'est un beau souvenir. Les eaux approchent du fort, mais se retirent. Le 6 janvier 1643, en plein hiver, Maisonneuve, accompagnée de la plupart des habitants, porte une croix sur une distance de 4 kilomètres jusqu'à l'endroit où M. de Belmont va faire construire en 1680 le fameux fort de la montagne. Il y a 2 des 4 tours qui sont toujours là, debout sur la rue Sherbrooke. Moi, c'est presque devant chez moi. C'est devant le grand séminaire qu'on voit ces 2 vieilles tours qui datent de la fin du 17e siècle. Elles sont là, on peut les visiter, on peut les voir. Hein? Et la croix lumineuse qui s'élève sur le Mont-Royal, c'est pourquoi? Elle est là depuis 1924 pour commémorer l'exploit et la foi de Maisonneuve et des fondateurs de Montréal. Et dans la relation des Jésuites de 1643, le père Vimont s'appuie sur le témoignage des pères Duperron et Poncet pour décrire longuement la situation à Montréal, les excellents rapports établis au début avec les arrivants, les Autochtones. À la fin de février 1643, une bande de 25 Amérindiens en route pour faire la guerre aux Iroquois, laissent même leurs femmes et leurs enfants à la garde de Maisonneuve et des premiers fondateurs de Montréal. Et en avril, quelques Algonquins, poursuivis par les Iroquois, se réfugient à Ville-Marie. Et d'autres viennent chasser dans l'île. Le chef Oumatsassikwe et sa femme Mitigoukwe sont les premiers adultes à demander le baptême et le sacrement de mariage. Et les missionnaires jésuites sont très heureux. Le climat règne dans la colonie d'une façon magnifique. Et alors, l'accueil des Français est amical. Les rapports entre les deux peuples, c'est cordial. Et en apprenant les buts de l'établissement, les Amérindiens sont touchés. Les bons traitements qu'ils reçoivent les enchantent. Ils en parlent à leurs compagnons, qui viennent nombreux faire des échanges et recevoir l'enseignement religieux. Cette situation pacifique sera de courte durée, et malgré les efforts des Français, les attaques sporadiques des Iroquois se multiplieront jusqu'à ce que des traités de paix définitifs soient conclus en 1701. Il faut lire dans l'ouvrage admirable sur le royer de la Dauversière par Henri Béchard, publié aux éditions du Méridien, un livre de 400 pages, que si on avait su comprendre les Iroquois, on aurait cessé cette guerre, car pour les Amérindiens, lorsque le sang avait coulé, il suffisait, dit Henri Béchard, le père Béchard, il suffisait de s'entendre au moyen de négociations sur un wampum ou l'équivalent à remettre aux plus proches parents de la victime. Et l'acceptation de ce coquillage symbolique signifiait que justice était faite. On n'aurait donc pu cesser la guerre, probablement. Comme il n'y a pas encore eu de malades à Montréal, Jeanne Mance écrit à Madame de Bullion à l'automne de 1643 et lui suggère de verser aux missions Hurones les fonds promis à l'hôpital de Ville-Marie. Madame de Bullion demeure inflexible. Elle rencontre Jérôme de la Dauversière et Bertrand Drouard, qui sont respectivement procureurs et secrétaires de la Société de Montréal. Elle leur dit que c'est volonté. Le 12 janvier 1644, au nom de la société, bien, ces deux hommes, lesquels ont dit et déclaré qu'ils se seraient présentés à une personne qui ne veut pas être connue de ce monde, signent devant le notaire Chaussière à Paris l'acte de fondation pour les malades de l'île de Montréal, et Madame de Bullion leur a remis cette fois-là 42 000 livres pour l'hôpital, 6 000 livres pour la construction et les autres 36 000 livres pour assurer 2 000 livres de rente. C'est absolument d'une générosité fantastique. En 1645, un hôpital en pierre appelé Maison de Mademoiselle Mance est construit. En février 1644, la reine régente Anne d'Autriche avait pris la colonie de Montréal sous sa protection et lui a accordé des lettres patentes au nom de son fils Louis. Au début de 1649, M. de la Dauversière tombe gravement malade. Le baron de Ranty, qui a fait de grands dons à Montréal, meurt en avril, et Ville-Marie s'inquiète, et à l'automne, c'est au tour de Jeanne Mance d'entreprendre la traversée de l'océan. Là, la rencontre entre Jeanne Mance et M. de la Dauversière, tout à fait guéri cette fois-ci, produit des effets salutaires. Là, des réunions des associés sont convoquées en mars 1650, et c'est alors qu'est créé le sceau armorié de la société où paraît l'image de Marie, portant l'enfant Jésus. Alors, il y a des activités qui se font de toutes sortes, mais les Iroquois détruisent les missions Hurones, martyrisent plusieurs jésuites. Montréal est en danger. Elle est menacée. La colonie compte à peine une dizaine d'années d'existence et déjà que son avenir est compromis. Le gouverneur Maisonneuve devra donc se rendre en France chercher du renfort. Et là, le lieutenant Charles Daibou, commandant intérimaire pour défendre Ville-Marie, Maisonneuve part pour la France à l'automne de 1651. Il veut recruter 200 hommes. Entre le 23 mars et le 17 mai 1653, 120 colons signent à la flèche un contrat d'engagement. La plupart sont des défricheurs, des laboureurs, même il y a des maîtres chirurgiens, des compagnons, des charpentiers, etc. Et si l'on tient compte des dépenses encourues pour le transport et tout, l'achat d'armes, etc., ça coûte une fortune. Ah, si Radio Ville-Marie avait quelqu'un comme Madame de Bullion pour financer, ce serait merveilleux. Et Jeanne Mance travaille d'arrache-pied, Maisonneuve confie le commandement à Lambert Closse, et on se débat comme on peut. C'est catastrophique presque, mais malheureusement, les filles de Saint-Joseph arrivent à Ville-Marie en 1659. Il y a longtemps qu'elles y sont attendues. Et alors là, les premières arrivent, c'est Catherine Massé, Judith Moreau, Marie Maillet. Quand elles partent, eh bien, Jérôme Leroyer de la Dauversière les bénit. Et puis, revenu chez lui, usé par la maladie, le travail et les soucis, M. de la Dauversière se mettra au lit. Pour ne plus se relever, il souffre de plusieurs maux. C'est la dysenterie qui l'emportera. Le 6 novembre 1659. Cette mission fantastique de Jérôme Leroyer de la Dauversière a fait de Montréal une ville fondée sur la foi, au Christ, à Dieu. Il faudrait que nous retournions à la solidité de la foi de cet homme, à son amour de Dieu et de ses semblables, pour nous convaincre que seule la sainteté peut faire de grandes choses, si nous le savions. Il est grandement dommage que nous en soyons bien éloignés. Jérôme Leroyer de la Dauversière, fondateur de Montréal.